J'aime bien me coucher pas trop tard.
Oh Malou, oh Malou.
France Inter et l'AMC de Grenoble présentent du 12 au 15 novembre L'Homme à tête de chou. Chorégraphie de Jean-Claude Galota, paroles et musique de Serge Gainsbourg, interprété par Alain Bachung. L'Homme à tête de chou, à l'AMC de Grenoble, une création du Centre chorégraphique national de Grenoble, à retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter présente Luz Casal. La passionne. En concert les 10 et 11 novembre au Théâtre du Châtelet. Luz Casal, en partenariat avec France 3, à retrouver dans le programme musical de France Inter.
France Inter,
la différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet pour La Basse, j'y suis.
Bonjour à tous. Je vous téléphone parce qu'on nous parle beaucoup de mesures budgétaires, de disette, de vaches maigres en ce moment. Et puis j'ai trouvé dans un article, dans un journal en Allemagne qui s'appelle le Bild Zeitung, un article assez intéressant sur notre cher président. Alors je vous le lis tel quel en français, bien sûr, qui a été traduit. Alors, 8 avions, 61 voitures de fonction, 1000 employés. Toute la France est touchée par les mesures de récession. Toute la France ? Non, une personne ne joue pas le jeu. Le président Nicolas Sarkozy. Le budget de la présidence a toujours été tenu secret en France. Pour la première fois, il est révélé sous Nicolas Sarkozy. Dans les 300 mètres carrés de l'appartement de fonction des Sarkozy, les fleurs doivent être fraîches en permanence. Coût, 280 000 euros par an. Lorsque Nicolas Sarkozy voyage à titre privé, un avion gouvernemental vide l'accompagne en permanence pour lui permettre de rentrer à Paris en cas d'urgence. Il dispose de 61 voitures de fonction, 2 Airbus et 6 avions Falcon Jet. Le dernier avion en date, 60 millions d'euros, a été baptisé Carla, du prénom de Madame Sarkozy. Dépenses annuelles pour les boissons, champagne, etc., 1 million d'euros. Il a presque 1000 employés à son service, soit deux fois plus que la reine d'Angleterre. Parmi eux, 44 chauffeurs et 87 cuisiniers. Les cuisiniers-chefs peuvent se servir librement dans les caves à vin du palais de l'Élysée. Le repas de midi leur est servi par des laquais. Carla et Nico, c'est eux qui ont mis Carla et Nico, ce n'est pas moi qui les appelle par leur petit nom. Carla et Nico peuvent commander de la nourriture ou des boissons 24 heures sur 24. La cuisine est en service en permanence. Indignation, protestation ? Pas du tout. En France, il semble être une affaire d'honneur que le chef de l'État incarne, entre guillemets, la gloire de la nation. Il est le successeur du roi Soleil, et c'est exactement comme tel qu'il vit. Voilà, et je vous lis ensuite les légendes des photos. Alors à gauche, nous avons le roi Soleil et sa madame Pompadour, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, et à droite, l'un des 30, entre guillemets, réfectoires du palais de l'Élysée. Voilà, donc ce serait bien qu'on entende un petit peu ça aussi chez nous, puisqu'on nous parle de vaches maigres et de disettes. Oh là 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 là, qu'il fait bon être au palais de l'Élysée.
Salut Daniel, salut les AMG. Je suis en train de lire le rapport d'Amnesty International sur l'eau, Israël et la Palestine, où en Israël on peut avoir 300 litres d'eau par jour, tandis qu'un Palestinien a le minimum vital, c'est-à-dire entre 20 et 70 litres d'eau par jour. Voilà. Ce rapport est très intéressant et on peut le retrouver sur Contre-Info, sur un moteur de recherche quelconque. Et il reste encore quelques jours pour aller voir l'exposition sur l'art contemporain à l'Institut du Monde Arabe. L'art contemporain et la Palestine, parce que créer, c'est résister. Bisous.
Daniel, salut, c'est Joseph de Rennes. Les politiques, on le sait, ont un cynisme et une morgue à toute épreuve. On en a encore eu la preuve ce matin, avec le commentaire dans le journal de 8h de France Inter, d'un ancien conseiller, porte-flingue de Chirac, Jean-François Probst, à propos de sa possible, éventuelle dernière mise en examen pour les emplois fictifs de la ville de Paris. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que la justice passe, a dit le conseiller, mais franchement, elle est un peu lente, a-t-il insisté en appuyant sur lente. Alors que l'ancien président et ses conseillers se sont escrimés pendant les deux mandats à entraver la marche de la justice avec une armée d'avocats, de juristes qui ont traqué le vice de procédure, le vice de forme pour repousser une éventuelle comparution. Ah, j'oubliais, le conseiller en question de Chirac a dit que Chirac avait la baraka. En multipliant ainsi les impostures, c'était pas difficile. Salut Daniel.
Oui, bonjour à tous. Véronique de Montreuil, qui est de retour d'un séjour de recherche en Sibérie. Et à propos du capitalisme du désastre, voilà ce que j'ai entendu, un message publicitaire de mon passage à Moscou, sur une des radios. Alors, ouvrez les guillemets. Comment faire pour ne pas être licencié ? Devient celui qui licencie. sans commentaire. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel. Voilà, je t'appelle concernant les agents commerciaux indépendants, voire la micro-entreprise. C'est merveilleux, là. Nicolas, il a trouvé un truc fabuleux. Les gens s'installent et puis après, c'est que du bonheur. Moi, j'ai 53 ans, je suis un commercial lambda, toi, qui a son compte, qui a travaillé dans une grosse boîte avant. Et je peux te dire que c'est très très dur. Toi, on parlait de l'URSSAF, j'ai eu un rappel de l'URSSAF. J'ai ma femme qui m'aide, si elle n'avait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Honnêtement, je ne sais pas. Et j'ai une clientèle, j'ai des amis qui sont plus amis clients, donc je pars pas de rien tout au niveau du boulot. Et malgré tout, c'est très très dur. Et ce que je veux dire, j'aimerais que tu fasses une enquête sur la micro-entreprise d'ici un an ou deux pour voir exactement combien de gens ont pu perdurer et la casse que ça doit faire. Mais je pense qu'on n'en parlera pas trop de ça, toi. À mon avis, c'est assez tragique. Voilà Daniel, continue, je te dis bonne chance et à bientôt. Salut Daniel.
Mauvais esprit, c'est ce qu'on nous avait dit. Après la diffusion de l'émission du 12 mars 2009, il n'y a pas si longtemps, sur l'auto-entreprise, cher AMG, je m'adresse au dernier message qu'on a reçu. L'auto-entreprise et culture de l'audace, goût de l'impossible, on avait pas mal critiqué ce dispositif et on nous avait dit mauvais esprit. Et ben voilà, on voit les résultats aujourd'hui, pas seulement à travers ce témoignage précieux de cet auditeur que je remercie, comme tous ceux qui nous ont laissé des messages de plus en plus pertinents et de plus en plus vigilants. Mauvais esprit, c'est ce qu'on avait dit il y a 20 ans. 20 ans, mais oui. Lorsque nous avions présenté, c'était les premiers reportages de La Basse, si j'y suis, à une suite sur la chute du mur de Berlin. Vous entendez derrière moi les coups de marteau sur ce foutu mur. Et ben, c'est un son que nous avons enregistré il y a 20 ans. Mais on n'avait pas fait qu'enregistrer ce son-là. On avait, présenté une série de reportages qui amenaient comme une sorte de petit bémol dans l'euphorie général. Il peut bien que ce bémol, 20 ans plus tard, on le retrouve la semaine prochaine à l'occasion de la célébration du 9 novembre. Il faut faire attention à cette célébration du 9 novembre parce qu'il y a toute une série de 9 novembre qui ont scandé l'histoire de nos voisins allemands, par exemple, 9 novembre 1918, est-ce que c'est celui-là qu'on va célébrer le jour où l'empereur a abdiqué et ce jour même où deux hommes, et pas des moindres, ont appelé à la création de la République. Deux hommes en même temps, deux républiques en même temps, Philippe Scheidemann d'un côté et Karl Liebknecht de l'autre, avec ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi et que nous évoquerons sans doute au cours des reportages qu'on va vous présenter la semaine prochaine. Donc, 9 novembre 1918, 9 novembre 1923, le putsch raté d'Adolf Hitler, le 9 novembre 1938, ce que ces nazis ont appelé la nuit de cristal, c'est-à-dire, vous le savez bien, ces pogroms contre des commerces et juifs et des synagogues, et puis évidemment le 9 novembre 1989, j'ai bien l'impression que c'est celui-là qui sera évoqué le 9 novembre prochain sur France Inter et pas seulement. Et puis on peut retourner effectivement 9, 11 ou 11, 9. C'est assez bizarre ces chiffres et ces dates. Je pense pas que c'est la moindre signification, mais je pense qu'on doit beaucoup, beaucoup élucubrer à ce propos. Élucubration, il n'y en avait aucune dans ce qu'on va entendre aujourd'hui, 20 ans plus tard. Là-bas, si j'y suis, à Berlin, c'était les premiers pas de cette émission qui fête, vous avez bien compris, cette année, c'est 20 ans. Là-bas, à 20 ans, et ce n'est qu'un début. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de La Basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Je voulais dire que, comme les photos jaunissent, nous, en radio, c'est les sons qui jaunissent. C'est les sons qui parfois deviennent se troublent et s'éraillent un petit peu. Pardonnez la qualité, le manque de qualité par moment de ce qui. On va dire un document.
Bonjour. Pour ceux qui ne sont pas encore passés place d'Enfer Rochereau, je voulais les informer que le lion de Belfort a changé de poil. Du vert sombre et sinistre qu'il habille d'habitude pour surplomber la place d'Enfer Rochereau, les catacombes et l'avenue du Général Leclerc, il a muté pour le jaune doré reluisant, plus conventionnel pour un lion et beaucoup plus saillant. Du coup, ce lion sévère et anachronique, parce que tout de même on se demande bien ce qu'il peut faire là, devient un animal exotique et brillant, avec un rien d'humour, ce d'autant que les petits malins qui l'ont couvert d'autocollants jaunes ont dû être interrompus, car la tête garde son vert foncé, pour nous rappeler l'état antérieur du malheureux lion de Belfort, en hommage à la résistance nationale de 1870. Il y a de quoi déprimer. Et on comprend le pauvre lion d'endosser une autre casaque 140 ans plus tard. Je suggère qu'on termine ce travail magique et qu'on ne laisse dépasser que les yeux et la truffe, rendant enfin au lion sa toison royale de lion de la savane. Comme ça, on pourrait un peu rêver en passant sur la place et ça nous changerait par ces temps où l'imagination n'est guère au pouvoir. Salut, Daniel Mermet, à bientôt.
Bonjour Daniel et toute l'équipe, ceci est un message pour les AMG de Dordogne. Le Café Repère du Bergeracois, c'est tous les derniers jeudis du mois, donc ce soir à 18h30 au Plus Que Parfait, en ancien Sherwood, au 12 rue des Fontaines à Bergerac. On y parlera du chômage. Quel regard portez-vous sur votre chômage, celui des autres et la façon dont il est orchestré par notre société? Temps disponible pour le repos du corps et l'élévation de l'esprit, ou début de la galère, du surendettement, de la précarité et de la misère? Bref, est-il chance ou malchance? Venez témoigner, rencontrer ou échanger. Pour plus d'infos, nos coordonnées sont sur le site labas.org. Merci, salut!
Je préfère le terme de collectivisation à celui de nationalisation. Bon, certes, la nation est une des formes possibles de la collectivité. C'est une entité qui représente une collectivité. Mais ce que je n'aime pas dans l'idée de nation, c'est sa mise en comparaison, qui devient d'ailleurs rapidement une mise en compétition avec les autres nations. La comparaison, c'est pas mal. La compétition, c'est moins bien. C'est pas ça que je veux, moi. Tiens, je parle comme Sarkozy. Ce que j'appelle de tous mes voeux, c'est une collectivisation en tant qu'elle se réfère à l'idée de bien commun. Voilà, c'est ça mon rêve, moi. Que les gens, ils travaillent pour la collectivité. Et collectivisation, ça veut pas dire étatisme non plus. C'est-à-dire une espèce d'État-providence, d'État tout-puissant. Il y a des gens qu'on délègue, là, et qui seraient les pouvoirs publics, et puis qui nous fabriquent notre bonheur. Non, 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 non. Ça, c'est une connerie. Hein. Ça, je veux pas de ça. Pas de hauts fonctionnaires, quoi. La hiérarchie est uniquement fonctionnelle, et elle n'a aucune incidence sur la représentation sociale. Ça doit pas, le moteur, ça doit pas être arrivé en haut de l'échelle, quoi. Le moteur, ça doit être, je travaille pour la collectivité et la collectivité travaille pour moi. C'est ça mon projet de société. C'est ça mon projet de société. Vous voyez? Et je comprends pas pourquoi ça tente pas davantage de gens.
AMG de la Basse-Ardèche et de la Drôme, bonjour. Et oui, c'est la reprise de la saison 2 du Café Repère de Saint-Montant. Le vendredi 20h. Alors toujours au petit bistrot, hein, à l'entrée du village. Alors au menu ce soir du 30, Adopi, hein, droit d'auteur, numérisation de l'édition, quel modèle économique? Est-ce un vrai partage des connaissances ou est-ce un arbre qui cache la forêt? Avec, bien sûr, vous connaissez certains, le projet l'Opsi 2. Hein, qui prévoit une labellisation des sites d'information et des blogs, l'intégration d'un mouchard aux ordinateurs, et puis la possibilité des coupures d'accès au site par les fournisseurs d'accès. Alors se pose la question s'il n'y a pas une vraie mise en main de l'Internet et que le projet Adopi, qui a fait beaucoup de vagues, est un projet qui permet de faire passer le reste. Et j'ai trouvé une phrase amusante également, l'Internet va-t-il devenir un futur Minitel? Alors venez tous débattre, vendredi 30 octobre à partir de 20h, hein, c'est au petit bistrot. À bientôt, merci Thierry.
Salut Daniel, c'est Mathieu dans le Var. Je tombe sur un communiqué de presse du Front National de la Jeunesse du Var au sujet de la mort du jeune Marocain dimanche soir sur sa moto en voulant échapper à un contrôle de police. Mohamed s'est enfui à la vue de la police. Il s'agit donc d'un délinquant puisqu'il s'est rendu coupable d'un délit de fuite. Apparemment peu doué pour la conduite, le délinquant marocain a heurté un arbre. Je rappelle que Mohamed est né en France et il est français. À ce prétexte, des jeunes en ont profité pour exprimer leur haine de la France en attaquant les forces de l'ordre et les édifices publics et en brûlant et cassant les commerces tenus par des Français. Leur motivation étant qu'à La Gabelle, le nom du quartier, ils sont malheureux, mais personne ne les y retient. S'ils ne sont pas heureux chez nous, qu'ils retournent donc dans leur pays. Lors de la manifestation silencieuse en mémoire du délinquant, on a vu des jeunes filles voilées et arborant des vêtements frappés des slogans islamistes défiler derrière une banderole sur laquelle était écrite « Allah Akbar ». Cela n'a pas choqué les autorités. Dans ce contexte, le maire de Fréjus a le culot de proposer de régler avec l'argent des Fréjusiens le rapatriement du corps du délinquant dans son pays. Pour notre part, nous préférerions faire rapatrier les délinquants étrangers vivants plutôt que morts, puisque dans le dernier cas, ils ne peuvent plus nuire à quiconque. Voilà une phrase qui ne veut rien dire en plus. La seule question que M. Brun, le maire, aurait dû se poser est qui va payer les soins à apporter au pauvre arbre qui a été abîmé par l'accident. Voilà deux choses. La première, c'est que toute la presse ce matin, et notamment la presse écrite, parle d'un rapatriement du corps, en l'occurrence le jeune est français, donc je vois pas pourquoi on parle de rapatriement au Maroc. Et ensuite, n'oublions pas que le Front National est toujours présent dans le Var, plus que présent, et qu'il faut s'en méfier, surtout quand on lit ce genre de choses aussi immondes. Merci et à bientôt.
Ach, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß oft im Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren.
Bonjour, guten Tag, willkommen in Berlin. Là-bas, c'est je suis.
Guten Tag, les Kiki, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2.
Une île dans la mer Rouge, c'est Berlin. Une île emmurée, cernée, séparée, squattée et reliée au reste du monde par un couloir où circulent toutes les fascinations, tous les mythes, toutes les fièvres, tous les voyeurs, toutes les valises diplomatiques, toutes les masseuses thaïlandaises, tous les wagons plombés, tous les parfums de putains, de poireaux, de jardins ouvriers, de charbon, de soufre, de travelots, de paillettes, de néons, de bras de fer, de rideaux de fer et de croix de feu. On va partir dans le métro, le U-Bahn, qui sort tout droit de la tronche de Fritz Lang, le métro bondé à craquer de Hostler, les Allemands de l'Est, qui viennent chez Aldi ou chez KDV, les grands magasins, les grandes vitrines, et qui repartent sans rien acheter. Berlin de la nuit, Berlin des bars et des boîtes cinglées, Berlin des néons qui gueulent, Berlin des eaux et forêts, des eaux et des jardins, des eaux et du zoo, un zoo fabuleux avec l'entrée comme une pagode bizarre et la baignoire des éléphants. Berlin qui ouvre son rideau rouge comme un drapeau, jaune comme du soufre, comme l'air gris et charbon, son rideau noir comme des chemises brunes. Et vert aussi, ouais, vert, il y a du vert ici. Du vert de gris et aussi du vert sur les voitures de la police.
Здравствуйте, товарищ Михаил Горбачев. Здравствуйте, прекрасная Раиса. У меня Нина, Нина Хаген. Dieses Liedchen ist für dich. Lass dir bloß nicht über den Tisch ziehen und zieh uns nicht über den Tisch. Michael, Michael. Bleibe klug und bleibe schlau. Bleibe Kind und sei ein Mann und sei tapfer wie eine Frau. Sonst gab's Kanonen statt Butter. Jetzt gibt es Freiheit statt Butter. Mein lieber Gorbi, das macht mir Sorgi. Nix ist mit Freiheit ohne Butter. Ich will in Kien Paradies drin. Dir
Welt soll bloß nicht so mies sein. Ich will bloß Wahrheit, Brot und Tomaten, Prosen für Liebe und einen Sojabraten. Oi, oi, Mama, Hoffnung, die ich heg. Mütterchen, mein Russland, mach dich auf den Weg. Oi, oi, Mama, blas mal in den Glut. Feuerchen, du wärmst mich und das macht mir Mut. Mikhail, Mikhail.
Venez à Berlin, venez voir à Berlin, l'histoire est en train de se faire. Je propose ce slogan à l'Office du tourisme de Berlin. Venez en ce moment, vous pourrez dire « j'y étais ». Venez voir les frontières bouger. Venez sur le mur picoter le pain dur, le pain très dur de la liberté. Venez entendre le dialogue Est-Ouest. Allez, c'est fini, j'enlève ma faucille et mon marteau si t'enlèves ta croix gammée. Nettoyons Berlin, la pissotière des espions. Tout ça, c'est du passé. Abracadabra, Perestroïka, Trabi et Gorbi, venez nous voir faire table rase du passé. Ouais. Sauf qu'ici, le passé a du mal à passer amnésie et stasie. Il suffit de passer à Checkpoint Charlie ou bien devant le Reichstag ou le siège de la Gestapo ou devant le petit bout de ruine de la synagogue ou bien devant les ambassades de la dernière guerre qui sont là comme des vaisseaux fantômes murés, ou bien dans les quartiers de Berlin-Est où on voit toujours intactes les ruines de 1945. Cette ville où il y aura toujours un canal avec le cadavre ensanglanté de Rosa Luxembourg, le bistrot de Rudi Dutschke et le bruit des avions du pont aérien. Comment voulez-vous oublier ? Alors venez voir à Berlin l'histoire en train de se faire. La scène, la scène, la vitrine, le théâtre des opérations. Aujourd'hui, la voiture de l'année, vous la connaissez, c'est la Trabi, la Trabant. Dans toute l'histoire de l'automobile, c'est la voiture qui a transporté le plus de larmes. Une petite bagnole avec un moteur de mob qui pue, qui pète entre les énormes BM et les Mercedes repues comme une berlinoise qui sort de chez Möhring. La Trabi, c'est une bagnole à deux temps. Un temps pour espérer, un temps pour désespérer. Un temps pour s'enfuir et un temps pour revenir. Alors allez voir ce qui se passe de l'autre côté du mur et revenez pour mettre des pots de banane dans l'appareil à sous du parti. Une bagnole de légende, cette Trabi. C'est à ça qu'on se reconnaît ici à la bagnole. Dans la rue, rien ne distingue vraiment un Allemand de l'Est d'un Allemand de l'Ouest, sauf grâce à la Trabi. La Trabi, on raconte qu'à l'Est, c'est des choses qu'on raconte. Il faut 12 ans d'attente pour en obtenir une. C'est assez incroyable. Mais c'est quand même beaucoup plus long que le restaurant chinois qui est à l'Est, le sol de Berlin-Est. On vous raconte qu'on peut y dîner absolument quand on veut, à condition de retenir sa table 6 mois à l'avance. Mais tout le monde ne peut pas se payer une Trabi. Il y a des gens qui sont toujours un petit peu impatients. Alors ceux-là, ils prennent le métro pour se ruer à l'ouest. Regardez, c'est un samedi matin dans le métro qui vient de l'Est, le vrai. Regardez, venez, à Berlin, l'histoire est en train de se faire aussi dans le métro, dans le Gorbi.
Le zurückbleiben, ça c'est très typique. C'est, ça veut dire rester en arrière. Il ne faut plus mettre un poil du côté de la sortie des portes, sinon on se fait coincer. Et comme vous pouvez voir, la plupart des gens qui sont autour de nous sont des gens de l'Allemagne de l'Est. On les reconnaît, une espèce de douceur dans le regard, une gentillesse, une tranquillité. Les Allemands de l'Est sont beaucoup plus violents, plus bruyants, plus gesticulants. Ils ont un air plus stressé. Vous reconnaissez aussi très souvent, ils ont des vestes jeans et puis des vestes anorak. Et les chapeaux. Le chapeau, comme vous voyez derrière, c'est le chapeau berlinois par excellence qui ne se porte plus ici depuis longtemps et qui se porte là-bas énormément. Une espèce de casquette avec des petits galons. C'est un demi mi-chemin avec les uniformes.
Nollendorfplatz.
Nollendorfplatz. Et quand on sort ici, on est près de la Potsdamer Straße.
Potsdamer Straße.
Oui, une espèce de Saint-Denis de Berlin où on trouve tout, depuis les intellectuels à la prostitution, en passant par la drogue, les paumés, les artistes, les alternatifs. On a juste réussi à se coincer. Et la plupart de ces gens vont sortir à Wittenbergplatz parce qu'ils vont tous au KDV, où c'est un supermarché absolument prestigieux qui se vante de vendre 100 000 produits différents. Mais c'est vraiment le supermarché plutôt luxueux, beaucoup, beaucoup plus cher qu'ailleurs. Mais c'est tellement beau, c'est tellement impressionnant. Il y a tellement d'objets de consommation qui sont mis dans des vitrines, disposés avec beaucoup de spots lumineux, d'effets. Alors ça en fiche vraiment plein la vue. Et les gens vont souvent là-dedans pour se promener comme dans un musée. Ils peuvent pas acheter ce qu'il y a là-dedans. Mais depuis ce magasin, ils vont à pied le long de la Kurfürstendamm, qui est la grande rue commerciale, et ils regardent les vitrines. Et là aussi, c'est rare qu'ils puissent acheter des choses qui se vendent dans cette rue-là. Mais tout de même, c'est là qu'ils sortent. Vous allez voir cet afflux.
Wittenbergplatz.
Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'ouest, au juste, ces Allemands de l'Est? Est-ce qu'ils viennent seulement en baver devant toutes les merveilles du capitalisme? En tout cas, je les ai vus revenir chez eux. Quand ils reviennent chez eux au point de passage du mur, ils font la queue pour rentrer chez eux, mais j'ai remarqué qu'ils n'ont rien acheté parce qu'ils n'ont pas de paquet, tout simplement. Ils n'ont pas de sac en plastique. Ils reviennent chez eux les mains vides. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Allemand de l'Est? Je ne sais pas du tout, et je ne sais pas s'ils le savent eux-mêmes. En tous les cas, je sais que la matière grise fonctionne de ce côté-là. Avec quoi repartent-ils d'ici, de ce Berlin-Ouest? Quelle idée? Quel désir? Est-ce qu'ils veulent vraiment tous copier le paradis de Mercedes, de sex shop et de bouffe? Ce bonheur avec les dents du fond qui baignent. Sur Mussolini, on danse sur Adolf Hitler, on danse sur Jésus-Christ, là-bas si j'y suis, chez les alternatives de l'Est, on rejoint le monde capitaliste avec ça.
Noah, qualifié pour le troisième tour des internationaux d'Australie, c'est le troisième français à l'être. Yannick Noah a battu l'Haïtien Génor en 3-7, 7-6, 6-3, 6-3. Et il doit affronter maintenant au troisième tour l'Israélien Bloom, 96e joueur mondial. Sur les 42 personnes interpellées, seuls 10 militants du Parti national français et européen sont toujours gardés à vue en ce moment à Versailles. Ils sont interrogés dans le cadre de l'enquête sur l'attentat qui a ravagé les locaux de Globe, le mensuel, en juillet 88. Parmi eux, il y a Daniel Sirizzotti, il est sous-brigadier. Il fait partie du syndicat de la Fédération professionnelle et indépendante de la police, un syndicat qui est proche du Front national. Un cosmonaute français va séjourner 12 jours à bord de la station Mir en 1992, à bord de la station soviétique et à l'occasion d'Antares, un vol habité. Il sera suivi d'autres vols habités au rythme d'un tous les deux ans. La bourse maintenant avec Jean-Pierre Gaillard.
Oui, et bien la bourse de Paris, la reprise technique est tout de même importante puisqu'elle est très exactement de 0,88% pour l'instant. On suit les autres marchés. Après la crise de mauvaise humeur enregistrée hier, pourtant les taux d'intérêt ne se détendent pas encore vraiment. Mais chaque fois qu'il y a des décalages trop importants, que des excès sont commis, il faut bien les corriger. C'est logique et c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc dans le sens de la reprise. Sur le marché d'échange, même problème. Le dollar qui avait beaucoup progressé repère 0,8% à 5,7625 francs. Seul le Deutsche Mark poursuit lentement sa baisse à 3,4004 francs. De la Bourse de Paris pour France Inter, Jean-Pierre Gaillard.
Pour tout savoir sur les cours de la bourse, les valeurs et les indices, 3615 code RF.
Daniel Mermet, est-ce que vous m'écoutez ? Daniel Mermet, est-ce qu'il est là, en direct
oui,
de
oui,
Berlin ?
Oui, je suis là, Isabelle.
Berlin, Berlin, voilà ce que je hante et que j'arpente de néons en cour grise, de statues de Bertolt Brecht en aile du désir, avec cette bière qu'on vous sert si lentement que vous avez le temps de contempler sur le mur d'en face les impacts intacts de balles de la Deuxième Guerre, à côté d'une affiche où il est écrit « Staline est lept, Staline est vivant » ou à côté d'un graffiti qui dit « Facho raus, facho dehors ». Tandis que passe un travelot fluo en talons résille, avec un renard autour du cou, un renard blanc acheté au marché polonais, près du canal, sous le métro aérien. La vie d'artiste à Berlin est dans la basse j'y suis, avec le rock de Trutsch. Trutsch, le rocker de l'Est, à qui j'ai demandé « Qu'est-ce que tu as pensé quand le mur est tombé ?» Il m'a répondu « Scheiße ». Merde. Et pendant ce temps-là, par la fenêtre, on voyait des murs en ruines, des ruines intactes depuis 1945. À Berlin, les murs ont la peau dure.
Jetzt hören Sie eine Moritat über den Räuber Mekis, genannt Mekki Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mekis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mekki Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Untat liest. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mekki Messer nennt. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis in der Menge, Mekki Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die Männer, ihr Wettere, wachte auf und war geschändet, Mekki, welches war dein Preis?
Voilà, ça c'est le bruit des pivets, hein, on les appelle ici, qui sont en train de cogner sur le mur de Berlin pour en extraire des petits morceaux, des petits bouts de souvenirs. Alors, on prend la voiture, on arrive le long du mur. De toute façon, on se retrouve toujours contre le mur et on passe à Checkpoint Charlie, cet endroit historique. Vous vous rappelez de ces images au temps où les chars soviétiques s'étaient retrouvés là, en face des chars américains. Nous voilà maintenant à l'Est. Je vous passe les épisodes, la découverte, la surprise, qu'est-ce que c'est. On essaye de tout interpréter et on se gourre presque à tous les coups. On se retrouve dans l'immense avenue, la colossale et énorme avenue de Unter den Linden. On passe à Alexanderplatz, la très déserte et très immense place Alexanderplatz, ce qu'elle est devenue. Et puis on va à Bahnhof Friedrichstrasse, et puis là on essaye de téléphoner, il faut trouver des jetons, c'est tout un boulot. Il y a un soleil gris au-dessus de nous, un soleil gris blanc presque. Et les artistes, c'est très difficile de les joindre, nous dit-on. Certains sont malades, certains sont déjà partis, d'autres ont des trucs à finir. On se demande s'ils ont vraiment envie de nous parler. Et finalement, on apprend qu'il faut se rendre dans un endroit qui s'appelle Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg, c'est un ancien quartier ouvrier qui est devenu petit à petit un quartier étudiant et puis qui est finalement devenu un quartier alternatif. C'est l'équivalent à l'Est de ce qu'est à l'Ouest, de l'autre côté du mur, à quelques centaines de mètres, le Kreuzberg. Ce sont les deux grands quartiers alternatifs, Kreuzberg à l'Ouest et Prenzlauer Berg à l'Est. Alors on y va, on roule dans cette ville assez déserte, il faut bien le dire. On passe soit du colossal, impressionnant et glacé, à des maisons assez, quand même, assez lépreuses. Tout ça a l'air d'être tout à fait en panne. C'est l'impression que ça donne, c'est l'impression que ça me donne pour l'instant. Mais tout le monde me dit non, tu vas voir derrière ces murs, au fond de ces cours, il se passe plein de choses. Et c'est ce que j'espère voir. Nous voilà enfin devant l'immeuble de ce musicien dont on nous a parlé, Trutz Trager. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle Firma et qui a beaucoup de succès ici à Berlin-Est. Et la chanteuse leader s'appelle Tatiana. Alors on rentre dans une cour grise, c'est vraiment pas gai. C'est vrai que c'est l'hiver, c'est vrai que le ciel est gris. C'est très dur quand même, il y a des poubelles, des carreaux cassés, des graffitis. Et puis sur une porte, un autocollant, Firma, c'est là. On frappe et puis celui qui nous ouvre, c'est lui, c'est Trutz Trager. Il a 25 ans peut-être. Il est très gentil, très marrant, très souriant. Il a le cheveu teint en roux, rock oblige. Il a les ongles vernis noirs, rock oblige. Et c'est lui le clavier du groupe. Et il nous emmène dans son appartement, il nous emmène dans son studio. C'est assez spacieux. Et là, il nous fait voir son matériel. Parce qu'il nous a dit studio. Alors, je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Je vois pas de studio, moi. Alors, ce que je vois comme studio, ben, c'est un vieux magnéto qui doit dater des années 50 et qui est hors d'usage. Il y a un lecteur de cassettes, mais il est désolé. Il n'y a pas d'enceinte, mais il a la patate, il a l'énergie, il va tout vous dire, tout vous expliquer, vous allez tout piger sur une facette de ce mouvement qui se passe à Berlin-Est. Quelqu'un m'a dit une chose hier, quelqu'un de l'Ouest, m'a dit, quand le mur est tombé, je suis allé à la rencontre de nos amis de l'Est. Et je suis venu avec une banane. Vous savez, cette fameuse banane dont je vous ai parlé, qui est le symbole, évidemment, de cette histoire, et aussi le symbole d'un certain mépris. Et je leur ai dit, maintenant vous n'avez plus besoin de banane, vous allez avoir tous les fruits. Mais quelle salade, les mecs!
Today, in the world of freedom, the proudest boast is...
Qu'est-ce que c'est la vie d'un musicien de rock en RDA aujourd'hui?
Naja, ließen sich da verschiedene Sachen, ganz viele Sätze dazu finden. Das Leben eines Rockmusikers in der DDR, wenn er Geld verdienen will, wenn es ihm ums Geld verdienen geht.
Autrefois, pour un musicien, s'il voulait seulement gagner de l'argent, c'était relativement facile. Il devrait seulement suivre ce que l'État avait dit. Mais si on était critique, si on voulait faire quelque chose de politique, c'était assez difficile. Il y avait même un comité. Devant ce comité, les musiciens de rock devaient apparaître. Et le comité a décider si c'était de la musique qui était bien pour l'RDA ou pas.
Quel a été et quel est le rôle de la musique, du rock et de son groupe Firma dans les événements qui se sont produits ces derniers mois?
Naja, wir haben zum Beispiel im September noch, als noch nicht so weit gediehen war, rein politisch, haben wir zum Beispiel in der Seelenbinderhalle ein Konzert gemacht und haben uns gesagt, was können wir nur tun? Also wir bezeichnen uns als linke Band, sogar als kommunistische Band.
Au mois de septembre, quand la situation politique n'était pas encore claire, ils ont donné un concert dans une grande salle de Berlin-Est et ils avaient discuté ce qu'ils voulaient faire. Ce groupe, il appelle un groupe gauchiste, même communiste.
Also in der Vergangenheit war es vielleicht so. Sagen wir mal, wir sind vielleicht ein bisschen, könnten wir jetzt von dem Begriff links und rechts abgehen, weil der zurzeit ja nicht so eine Bedeutung hat, sondern die Bedeutung liegt vielleicht auf eher nationalistisch oder nicht nationalistisch.
C'était ainsi dans le passé, maintenant les droite et gauche n'a pas tant d'importance et c'est plutôt la question nationaliste ou pas nationaliste.
Vague et un peu flou encore pour l'instant du rock de ce groupe Firma. Je suis avec le clavier du groupe Treutsch Träger à Berlin-Est. Alors il a parlé du nationalisme. Tout le monde parle évidemment du danger nationaliste, mais c'est au sens de nazi, au sens de fascisme qu'il faut l'entendre ici. J'avoue que pour l'instant, j'arrive pas très bien à mesurer. À chaque fois, tout le monde a peur de ça, tout le monde en parle, mais à part le parti républicaineur qui représente à peu près comme chez nous, je crois, autour de 10% d'extrême droite, j'arrive pas très très bien à mesurer précisément la taille de cette menace. Toujours est-il que dans les esprits, c'est partout, surtout à, du côté Berlin-Est, on parle de ces dangers, de cette résurgence nazie. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça raconte? Les chansons de Firma Trotsch.
Es geht eben gegen die Intoleranz. Wir singen zum Beispiel auch, weil der Mensch ein Mensch ist, immer noch. Ist ein altes Arbeiterlied. Drum links zwei, drei, drum links zwei. Also insofern haben wir uns der linken Tradition schon verschrieben. Und eigentlich geht es gegen Intoleranz. Es ging gegen die ganzen Probleme, die unsere Jugendlichen hatten. Bisher mit dem Staat und mit dem Elternhaus und über sämtliche Konflikte haben wir eigentlich gesungen und die eigentlich auch jetzt noch aktuell sind.
Surtout, ils sont gauchistes, ils ont lutté contre, par exemple, contre l'intolérance et ils ont aussi chanté quelques chansons du mouvement d'ouvriers. Il a donné un exemple bref maintenant.
C'est-à-dire que si je comprends bien ce que veulent nos amis dans leur groupe, c'est pas du tout
d'aller vivre à l'Ouest. Pour eux, l'Allemagne de l'Ouest, pour eux, Berlin-Ouest, pour eux, le capitalisme, c'est pas là où ils veulent vivre.
Non. Nee, auf gar keinen Fall. Gegen Kapitalismus sind wir ja auch. Also, um das mal so zu sagen.
Non, pas du tout, parce qu'ils sont aussi contre le capitalisme.
Qu'est-ce qu'il a pensé le 9 novembre? Qu'est-ce qu'il pense de la fin du mur?
Ich dachte, oh scheiße.
Je peux traduire, il a dit, oh merde.
Es ging sehr schnell. Es war also so, dass ich zum Grenzübergang kam und ich dachte, da ist eine Demonstration. Auf immer ständig im Westen.
Bon, ça s'est passé très vite. Il est allé à la frontière parce qu'il a vu beaucoup de monde. Il a pensé qu'il y avait une démonstration, mais tout d'un coup, il était dans l'Ouest.
C'était la première fois que tu passais à l'Ouest, que tu regardais l'Ouest?
Ja, ja.
Oui,
das erste Mal.
Qu'est-ce que c'était ton impression?
Naja, zuerst mal konnte ich es ja nicht so fassen, weil man hat ja immer so, wenn man hier lebt, da ist eine große Mauer da hinten und da war bisher die Welt zu Ende.
Ça durait quelques temps pour le réaliser. Avant le mur, pas loin d'ici d'ailleurs, pour lui c'était la fin du monde, c'était tout.
Voilà, c'était il y a 20 ans ce que vous entendez là, c'était à Berlin et c'était avec ce rocker, Deutsch. Je ne sais pas si on le retrouvera ce week-end prochain où nous serons à nouveau à Berlin 20 ans après, mais il n'était pas rare d'entendre des mots comme ceux-là de la part de des gens de la, les aussi qui n'étaient pas trop chauds pour en voyant ce mur s'effondrer, on a donné l'image d'un enthousiasme unanime, universel. C'était pas tout à fait le cas. Si évidemment il y a eu un flot de voyageurs attirés par la curiosité, bien évidemment, c'est certain. Mais ça a été un beau jour, deux beaux jours, mais avec de beaucoup de lendemains dont on essaiera de prendre la mesure. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait entendre dans la basse du J'y suis il y a 20 ans.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un Berlinois, je suis Berlinois, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire je suis natif, je suis né là, c'est tout. Je suis né ici à Berlin. Et mon pays, c'est l'Allemagne de l'Est.
Là, je parle avec Hendrix dans un bistrot, de nuit, comme il y en a d'innombrables dans Berlin. Hendrix.
L'Allemagne de l'Ouest, c'est quand même assez loin. C'est vraiment loin. Hein? Ça fait presque 200 kilomètres. J'ai rien à faire avec eux. Et mon pays, c'est ici. C'est la marque Brandenburg. C'est les 150 kilomètres qui sont tout autour de Berlin, où je suis coupé depuis des années et des années. OK, maintenant, ça a changé un peu. Et on verra qu'est-ce qui se passe.
C'était quoi le Berlin de ton enfance?
C'était les week-ends avec mon père en bagnole vers Berlin l'Est, vers les Müggelsee, se baigner, prendre une limonade. C'est surtout moi et mon père, parce que, OK, dans la semaine, il a travaillé. Et les week-ends, OK, ma mère, elle s'est débarrassée de nous deux.
Est-ce que tu te souviens de 61, du mois d'août 61, quand le mur a été érigé? Qu'est-ce que ça a été autour de toi, pour ta famille ou pour toi, qui étais un gamin?
Le 13 août, moi, j'étais en Allemagne de l'Est chez la famille, vers Dresden. Les deux semaines là-bas, la fin des grandes vacances en été. Et trois jours avant notre départ de là-bas, la mur s'est installée. OK, c'était trois jours un peu de peur si on peut sortir de l'Allemagne de l'Est. Moi, j'avais 13 ans, 14 ans environ. Après, c'était le train à Berlin, Friedrichstrasse, sortie tout normal, retour à l'école. Après l'école, on passait vers Machnow. C'est pas le mur, c'était la frontière Berlin-Allemagne de l'Est pour regarder qu'est-ce que se passe là-bas. C'était juste aventure.
À quel moment tu as réalisé qu'il y avait un mur?
Je crois que j'ai fait ma permis de conduire et je suis allé la première fois toute seule en bagnole en Allemagne-Ouest. Là, j'ai réalisé que c'est quand même quelque chose d'assez étrange. Attendre, faire cette distance de 150 km en 6 heures. Là, j'ai bien réalisé qu'il y a quand même quelque chose qui est différent. Qu'il existe quelque chose vraiment qui gêne.
Oui, quelque chose qui gêne et qui est différent. On se demande toujours, au-delà des images qu'on a vues récemment, comment les Berlinois de l'Ouest voient ceux de l'Est. Si c'est vraiment aussi fraternel, on le voudrait, et aussi amical et, que les images qu'on a vues. Sans doute que ça l'est. Mais on dit ceci. Pour savoir si vous êtes à l'Est ou à l'Ouest, il suffit d'accrocher une banane au-dessus du mur et elle va vous servir de boussole. Du côté où elle va être grignotée, c'est l'Est.
Mais l'Allemagne de l'Est, c'est pas tiers monde. Hein? C'est quand même... on peut dire qu'est-ce qu'on veut. OK, ils sont pas riches comme nous, mais ils sont quand même riches. Hein? Alors, en comparaison avec des pays, disons... même les Turcs. Les Turcs, l'Allemagne de l'Est, c'est riche. Hein? Et... ils font partir des 10 pays les plus riches du monde. Alors, pourquoi faire des soucis? Même quand ils sont en bas, là, vraiment bas maintenant, ils ont quand même assez à bouffer. Tout le monde a assez à bouffer. OK, ils n'ont pas la consommation qu'on a. Ils n'ont pas... OK, peut-être ils n'ont pas des vidéorecordeurs et ils n'ont pas assez de télé en couleur. OK, ouais, mais c'est tout. Peut-être ils n'ont pas assez de bagnoles. D'accord. Ouais. Pas mon problème. Hein. Vraiment pas mon problème.
Tu penses quoi aujourd'hui sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé? Prenons des dates, OK? Prenons le 9 novembre.
OK, ça m'a intéressé. Ouais, j'étais quand même touché par, plus ou moins, par ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai passé la frontière de l'Allemagne Ouest à l'Allemagne l'Est, vers Herleshausen. Des gens, des immenses masses de gens, tout le monde klaxonne et bonjour et tout ça. Et j'ai déjà bien pensé à... OK. Attends, la vie quotidienne, ça commence bientôt, on verra qu'est-ce qui se passe. Parce que la euphorie et les émotions, ça dure un mois, deux mois, trois mois. Si ça reste, c'est dangereux.
19h15, le téléphone sonne. Mikhaïl Gorbatchev en danger. L'effervescence qui gagne les républiques soviétiques, pays baltes, Arménie, Azerbaïdjan, place le chef du Kremlin dans une situation difficile. Comment Gorbatchev peut-il répondre aux aspirations nationalistes? Ce soir, au téléphone sonne, autour de Pierre Veil, plusieurs spécialistes de ces problèmes et Ulysse Gosset de France Inter qui sera en direct de Moscou. Vos questions dès 17h au 45 24 7000 ou toute la journée par Minitel 3615 code RF.
So, ich dachte eben, sie wackeln schon.
Voilà ce qu'on entendait il y a 20 ans dans la basse où j'y suis et sur France Inter. On vient d'apprendre un truc formidable sur le Trutch, le garçon, ce rocker de l'Est et son groupe dit Firma. Eh bien, on apprend que le groupe s'est séparé en 1993 lors de la réunification. Lorsque la Stasi ouvre ses archives, on découvrira que deux des principaux membres du groupe avaient régulièrement collaboré avec elle, avec la Stasi, en lui fournissant des informations sur leurs proches. Ceci a sans doute contribué à la séparation du groupe. Une histoire tout à fait ordinaire dans les suites de cette histoire et de la chute du mur. Firma, en argot, ça voulait dire... La Stasi. Merci à tous. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse où j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur labas.org. Et merci à tous ceux qui nous donnent des tuyaux et des pistes pour Berlin où nous partons demain. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Coyen Guyenne et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot. Quant à Catherine Pinto, elle attend vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Écoutez, et pourtant ce n'est qu'une infime partie de tous les millions d'euros que Euromillion met en jeu vendredi.
Près de 77 millions d'euros. 77 millions.
J'adore ce bruit.
Estimation non garantie des gains à partager en 1, voire règlement.
Euromillion. Il n'y a que Euromillion pour gagner autant de millions.
Française des Jeux.
Madame, vous employez une personne quelques heures par semaine, qu'est-ce que vous répondriez à une petite voix qui vous dirait
« Eh, c'est déjà pas donné, hein ? Tu ne vas pas en plus payer des charges, non ? D'autant que ça doit l'arranger, elle aussi, de ne pas payer d'impôts sur ce petit boulot. »
Je lui dirais que ça ne tente pas du tout, parce que c'est fraudé, et on y perd tous. Moi, qui peux être lourdement sanctionné, l'employé à domicile, privé de protection sociale et de droit à la retraite, c'est toute la société qui en subit les conséquences.
C'est dans l'intérêt de tous que les pouvoirs publics se mobilisent encore davantage pour lutter contre la fraude. Parce qu'agir contre la fraude, c'est agir pour plus de justice.
Ceci est un message du ministère du Budget, des Comptes Publics et du réseau URSSAF.
France Inter présente Madeleine Perrot.
Let it get real quiet.
En concert le 17 novembre au Casino de Paris. Retrouvez Madeleine Perrot. Programme musical de France Inter.
Et j'ai oublié ceux qui, à l'époque, avaient participé à cette émission. Michel Soulier, qui était la réalisatrice, Gaëlle Bessière, qui était l'assistante, et Ludovic Duneau, qui était reporter. Il va être 16h sur France Inter. Il est 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Amélie Dufay. Salut.
Les États-Unis sont sortis de la récession durant l'été. Pour la première fois depuis un an, le PIB américain a augmenté de 3,5% au troisième trimestre. L'économie américaine reste toutefois fragile. Le secrétaire d'État américain au Trésor fait d'ailleurs remarquer que les effets de la récession persistent pour des millions de personnes. Les sujets de discussion ne vont pas manquer au sommet de l'Union européenne qui s'ouvre tout juste à Bruxelles. Les 27 se réunissent pour résoudre deux questions. Comment convaincre la République tchèque de signer le traité de Lisbonne et comment financer la lutte contre le réchauffement climatique? Les dirigeants européens doivent se mettre d'accord avant le sommet de Copenhague en décembre. Et dans les coulisses, un sujet occupera également tout le monde, le futur président de l'Europe. Deux candidats se sont déclarés, Tony Blair et le luxembourgeois Jean-Claude Juncker. L'attitude des pilotes d'avion est depuis quelque temps mise en cause. On les accuse de ne pas être toujours concentrés. Et c'est peut-être ce qui a provoqué cet accident à Pau en janvier 2007. Un avion de la compagnie régionale avait percuté et tué le chauffeur d'un camion après une sortie de piste à l'aéroport de Pau. Après 2 ans et demi d'enquête, l'instruction s'achève par 2 mises en examen. Le pilote et le copilote soupçonnés de grave négligence. Selon l'avocat de la famille du chauffeur, maître Thierry Sagardoito, il régnait dans le cockpit une ambiance trop dilettante.
L'enregistrement des propos entendus dans la cabine laisse extrêmement perplexe sur l'ambiance qui régnait à bord. Alors que le pilote est en train de manœuvrer l'appareil et de quitter son point de départ, nous avons eu la stupéfaction d'apprendre que, d'une part, ça plaisantait, tantôt ça rigolait, tantôt on fredonne même des chansons d'Elvis Presley. Donc, pendant plusieurs minutes, il règne à bord une ambiance extrêmement décontractée et je passe sur des annonces fantaisistes qui ont, semble-t-il, été faites, y compris aux personnes embarquées à bord. D'ailleurs, les experts qui ont eu entre les mains les transcriptions ont dit très clairement que l'ambiance qui régnait à bord était tout à fait incompatible. À la fois l'absence de vérification extérieure sur l'appareil avant le décollage, mais également l'ambiance qui était franchement à la déconnade avant le décollage, nous permettent de penser que si les choses avaient été faites beaucoup plus sérieusement, l'accident ne serait pas survenu.
La facture va s'alourdir pour les fumeurs, mais pas pour les buralistes. Les députés ont voté une augmentation de 6% du prix des cigarettes en 2010. En revanche, ils ont refusé de surtaxer les cigarettiers sur demande du gouvernement.
Free peut être bientôt concurrent d'Orange, SFR et Bouygues. Le fournisseur d'accès à Internet a postulé pour devenir le quatrième opérateur de téléphonie mobile en France. C'est le seul candidat et il promet de diviser la facture de téléphonie des Français par deux. Free n'a en tout cas pas baissé les prix de sa hotline. L'UFC Que Choisir a assigné en justice le fournisseur d'accès à Internet. Selon l'association de consommateurs, Free contournerait la loi qui interdit aux opérateurs de surtaxer les appels vers la hotline.
Demain à minuit.
Difficile, Samy Frey, de résumer votre itinéraire. J'aime pas dire le mot carrière avec vous.
Laure Adler reçoit Samy Frey.
Je suis quelqu'un qui propose, toujours, qui n'impose pas, mais qui propose.
Studio Théâtre Spécial avec Samy Frey.
Et ça a été un moment véritablement très fort.
Studio Théâtre.
Très fort.
Laure Adler, demain à minuit.
J'aime bien me coucher pas trop tard.
Oh Malou, oh Malou, oh
France Inter Malou. Et l'AMC de Grenoble présentent du 12 au 15 novembre L'Homme à tête de chou. Chorégraphie de Jean-Claude Galota, paroles et musique de Serge Gainsbourg, interprété par Alain Bachung.
Oh Malou, oh Marilou.
L'Homme à tête de chou à l'AMC de Grenoble, une création du Centre chorégraphique national de Grenoble, à retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter. La différence.
16h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon pour Carrefour de l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon.
En musique comme ailleurs, la notoriété n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a les grands maîtres et puis ce qu'on appelle les petits maîtres, avec un peu de condescendance. Wolfgang, ben c'est le grand, c'est le Mozart qu'on célèbre partout. Léopold, son père, est un petit peu en retrait, même pas mal. Et puis en plus, on le montre du doigt parce qu'il aurait un peu exploité son fils. Il l'aurait entraîné sur les routes, fatigué. Enfin, Léopold avait pas mal de qualités quand même. C'était un violoniste, un théoricien et puis un compositeur qui a écrit pas mal d'œuvres qui sont assez intéressantes. Voici par exemple, le presto d'une symphonie pastorale. Évidemment, c'est pas le chef-d'œuvre de Beethoven, mais quand même, il y a beaucoup de charme et on va entendre cette fraîcheur, un corps très évocateur. Léopold était là, sans lui, il n'y aurait pas eu Wolfgang. presto d'une symphonie en sol majeur dite pastorale de Léopold Mozart, le père, par l'orchestre de chambre de Nouvelle-Zélande, dirigé par Donald Armstrong. Pleyel, on connaît son nom, leur nom, j'ai envie de dire, parce qu'il y a le père et le fils, par la salle Pleyel à Paris, par les pianos Pleyel, célébrissime aussi, et le personnage est assez obscur, enfin on n'en parle pas si souvent que ça dans l'histoire de la musique. Ignaz Joseph Pleyel, né dans la petite ville autrichienne de Rupperstahl en 1757, son père était un professeur peu fortuné qui a insisté quand même pour que son fils reçoive la meilleure éducation possible. Alors la route a été assez droite par la suite et on le trouve à un moment donné à Strasbourg, il était directeur adjoint de la musique et puis il va mettre en place un cycle de concerts très populaire auprès du grand public et à Londres se faire une place aux côtés de son maître Haydn, il va même être le concurrent et puis, la révolution arrive, plein de choses comme ça, plein de mouvements, il va résister à la révolution, il va y survivre en tout cas, et puis il va revenir vers Strasbourg et à Paris, il va fonder une maison d'édition de musique au succès fulgurant, grâce en particulier aux nouvelles partitions qu'on va appeler les partitions de poche. Donc Ignaz Pleyel a fait ça, puis avec son fils Camille, il a fondé une fabrique de piano qui est toujours bien vivante, heureusement,